toute l'affaire, en quelque sorte, toute l'histoire juive jusqu'à Nebuchadnezzar. Il présente ça, hein, toute la partie, à partir du moment où on a un Beth Amikdash, toute cette partie-là, c'est une affaire de lions, quoi. Ça se règle entre lions. Le lion, c'est le roi, oui. C'est le roi des animaux. Donc, il s'agit de quelque chose qui se joue à un très haut niveau, au niveau de la royauté du monde, quoi, si vous voulez. C'est ça l'idée du Midrash ici. C'est-à-dire, qu'est-ce que fait ce paragraphe là, dans la Sérette à Dibrot, là? Ça veut dire que ces paroles qui sont dites, enfin, cette même première parole qui est dite, en fait, ça place le clan Israël dans une situation de dialogue avec Hachem, et du coup, ça veut dire que tout est élevé maintenant, du seul fait qu'Hachem nous a parlé, et maintenant, tout se passe à un niveau beaucoup plus élevé, au niveau le plus élevé qu'on peut imaginer. Donc, que ce soit la destruction, que ce soit l'exil, ici, que ce soit au contraire les riches heures du Beth Amikdash, tout ça, c'est une affaire de royauté, quoi. C'est quelque chose qui se joue à un niveau très, très élevé. D'avoir à faire, Arié Shehaag, Amar HaKadosh Baruch Hu l'Israël, Hachem a dit au Bnei Israël, Mekablim atem aseret hadibrot. Hachem a interrogé les Bnei Israël, il leur a demandé, est-ce que vous acceptez les aseret hadibrot? Amroulo hen, ils ont dit oui. D'où est-ce qu'on sait qu'ils ont dit oui? Marqué dans Tehilim, allez asor, ve allez naved. Allez, 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 donc le kabel aseret hadibrot. C'est-à-dire, Assor, c'est 10, ouais. On est Assor. Normalement, c'est une harpe à 10 cordes dont on parle dans le verset. Mais ici, cette lecture, c'est, est-ce que vous allez être au niveau vous acceptez le niveau du 10, les 10 paroles, en fait. Ça serait à 10 brotes. Mahou Hashem Elohim diber miloinave. Alors comment est-ce qu'il faut entendre le verset qui dit quand Hashem Elohim a parlé, qui pourrait refuser de prophétiser? C'est-à-dire, la prophétie, c'est de dire la parole d'Hashem. Une fois qu'Hachem a parlé, il a parlé, évidemment, s'il parle aux hommes, donc il faut répercuter cette parole. Il faut être, c'est ça, ils sont tous devenus Nevi'im, d'une certaine manière. Ils sont tous prophètes. D'avoir reçu une parole d'Hachem, qu'est-ce que c'est un prophète? C'est quelqu'un qui a reçu la parole d'Hachem et qui va la retransmettre. Miloyenaveh. Qui ne va pas, qui ne prophétiserait pas. Amar Rabbi Abbahu b'shem Rabbi Yochanan, que Shenatana Kadosh Baruch Hu et la Torah, au moment où Kadosh Baruch Hu a donné la Torah, Tzipor lo tzavach, Of lo parach, Shor lo ga'a, Ofanim lo afu, Srafim lo amru Kadosh, Hayam lo nizdazer, Abriot lo dibrou, et la olam shotek ou machlish. Quand Hachem a parlé, le monde entier s'est tu, tous, les oiseaux, enfin tout s'est arrêté. Même les anges ont cessé de dire, y compris la louange d'Hachem. Tout le monde a été pétrifié, en quelque sorte. Hachem parle. Et quand Hachem parle, il s'est accol, et la voix est sortie, Anochi Hachem Elokecha. Renou Omer, et on dit aussi, le texte dit aussi, Et advarim maele diber Hachem el kol kealchem, kol gadol, velo yasaf. C'est Moshe Rabbeinu qui dit au Bnei Israël, ces paroles-là, Hachem les a dites à toutes vos assemblées d'une voix forte. Mais le loyasaf, alors le loyasaf, ça veut dire ou bien ça s'est pas arrêté, ou ça s'est jamais arrêté, ou bien ça n'a pas continué. C'est ambigu le loyasaf. Il n'y a pas eu de continuation, de supplément. Le loyasaf, c'est moussaf, supplément. Amar Rish Lakish, Amar Rav Shimon Lakish, Rish Lakish, Mahu velo yasaf, comment il faut interpréter lo yasaf? Et là, que Adam kore le chavero, yesh le kolo bat kol. Quand un homme appelle un autre, sa voix, elle a un écho, il y a un écho. Ve'akol kol, shaya yotse, mi pia kadosh borchu, lo aya le kolo bat kol. Ça, on avait déjà vu plus haut. Il n'y avait pas de bas de colle. C'est-à-dire, la voix d'Hachem, elle n'a pas d'écho. C'est la voix d'Hachem, il n'y a pas de. C'est uniquement la voix d'Hachem. En quelque sorte, rien ne peut faire écho à la voix d'Hachem. Il n'y a que la voix d'Hachem. C'est comme si on disait, même l'écho s'est tu. Vim tama ata alze. Et si tu t'étonnes de cela, Aré Eliaou Kusheba le Carmel, quand Eliaou Hanavi est arrivé au Carmel, Tanas Kola Komarim, il a rassemblé tous les prêtres du Baal et il leur a dit, Priez Bekol Gadol, Priez Bekol Gadol. Elohim, oui, c'est un dieu, il faut. Masa Kadosh Baruch Hu, Idmim Kol HaOlam, Vishtika Elyonim, Vatartonim, Vaya Olam Tohu Vavohu, Kilu Lo Haya Biria BaOlam, Shenemar Ven Kol Ven One, Ven Keshev, Shim Yidaber Hem Omrim, Abalaneinu, Wananu. Al achat kama vekama, kshedibera kadosh baruchu, Sinai, al Sinai, ishtik kol haolam kede shiyedu abriyot, she'en chutz mimenu, veomar anochi Hashem Elokecha. Ulatid lavo ktiv, anochi, anochi, u menachem chem. Donc cette histoire que la voix d'Hachem, elle ne peut être voix d'Hachem que dans un silence absolu. Si vous voulez, c'est tout ce qui concerne Hachem, c'est toujours uniquement Hachem. On l'a dit déjà. La crainte d'Hachem, si on craint Hachem et quelque chose d'autre, ça ne s'appelle pas craindre Hachem. L'amour d'Hachem, c'est aussi un amour. Par rapport à cet amour-là, il n'y a pas d'autre amour possible. Il n'y a rien. Hachem est Echad, ça veut dire il est un absolu. Et donc quand il y a sa voix, il ne peut rien y avoir d'autre. Et si tu t'étonnes de cela, alors on va prendre le contraire. À un moment donné, les Bnei Israël, Ils n'avaient pas vraiment décidé où ils étaient. Ils avaient un pied du côté de la Torah et un pied du côté de l'idolâtrie, de l'idole, c'était Baal. Et Lioanavi, il a fait quelque chose de tout à fait extraordinaire. Extraordinaire parce que il va apporter un corban pour Hachem et il va l'amener en dehors de l'endroit où on avait le droit d'amener un corban. Parce que Hachem, quand il y avait le tabernacle dans le désert, on pouvait apporter des corbanotes là-bas. Après, quand ils sont arrivés en Eretz Israël, il y avait à Shiloh, on a interdit les bamotes, les autels domestiques sont interdits, et donc les autels un peu partout ont été interdits. Il n'y avait qu'un endroit bien précis à Shiloh, Yvonne, etc. Et après, il n'y a que au Beth Amikdash qu'on a le droit d'apporter les corbanotes. Et lui, il va apporter un corban sur le Carmel. Au Mont Carmel, il a convoqué les prêtres du Baal et il leur a lancé un espèce de défi pour montrer au Bnei Israël, en fait. Donc il leur a dit, chacun va préparer un énorme autel avec un bûcher, etc. Ils vont mettre des taureaux là-dessus, chez les goyim avec le Baal, enfin un autel pour leur idole. Les Bnei Israël et les femmes d'autres, Eliaonavi va faire la même chose avec un autel pour Hachem, pour lequel il va mettre un. Enfin, les deux, ils vont mettre un foyer, en fait, du bois, et puis on va mettre les animaux dessus, mais on ne mettra pas le feu. Et le truc, c'est que Eliaonavi a dit, écoutez, vous allez invoquer votre Baal, et moi, les femmes d'Alot, je vais invoquer Hachem, et moi, je vais demander à Hachem de faire descendre un feu sur cet autel-là. Et vous allez demander la même chose. Alors, bon, à vous de commencer. Alors, bien entendu, comment ça allait se passer? Les goyim, ils ont mis des gens sous l'autel, caché des gens sous l'autel qui étaient censés mettre le feu, évidemment. Bon, Hachem a fait en sorte qu'il y a un serpent qui les a tués. Donc les gens, ils ne pouvaient pas. Alors les prêtres du Baal, ils ont invoqué, ils priaient, etc. Alors, Eliyahu a dit, faut crier fort, peut-être il dort, peut-être il s'est endormi, votre Dieu, etc. Il faut le réveiller. C'est fichu d'eux. Et après, il s'est tourné vers Hachem, et alors Hachem lui a dit, mais je t'ai pas demandé de faire ça. Et maintenant, je suis coincé, je suis obligé, tu m'obliges à faire. Ah, oui. Eliaounabi l'a obligé Hachem à se manifester, à envoyer du feu là. Donc le feu est venu, il a descendu, il a tout brûlé, c'est-à-dire il n'y avait plus rien, quoi. Pas seulement la viande qui était sur l'autel, mais l'autel, tout était brûlé. Donc ça, c'était la démonstration que Eliaou a voulu donner. Alors, ce qui s'est passé, c'est que au moment où eux criaient pour que le Baal réponde, Hachem a fait en sorte que rien, aucun bruit, aucun animal, rien du tout. Pourquoi? Parce que s'il y avait eu le moindre pépiment d'oiseau, déjà, ça c'est la réponse du Baal. Donc, pour que ça soit bien clair qu'il n'a pas répondu, Hachem a interdit au monde de bruit de quelconque manière. Donc, à l'inverse, ici, quand la voix d'Hachem se fait entendre, il n'y a rien d'autre qui peut exister. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire qu'effectivement, il ne s'agit pas d'une manifestation du monde. Quand Hachem parle ici, il s'agit vraiment de la parole d'Hachem. Donc, c'était ça l'importance ici de cette voix qui ne. C'est juste uniquement la voix, et aucun écho, rien du tout. Et le Midrash, il termine en disant que, bien sûr, c'était une façon pour montrer aux gens que Hachem est unique, qu'il est tout seul, etc., etc., et que Hachem, l'atidlavo, le mot anochi qui a été dit ici, ce anochi-là, ce sera votre consolation. C'est-à-dire que, à la fin des temps, Hachem se manifestera aussi sous forme de cette parole de Anochi, pour montrer que c'est vraiment, c'est pas une autre manifestation qui a lieu à la fin de l'histoire. C'est vraiment la même manifestation que celle du début, enfin, de ce début qui est le Sinaï. Bon. Il y a la voix d'Hachem au Sinaï, et cette même voix-là, ces mêmes mots-là, vont être la consolation, c'est-à-dire les Bnei Israël verront, d'accord, qu'il y a une continuité dans l'histoire. Ça veut dire que tout a été prévu, tout ce qui a eu lieu, et la suite de cette parole d'Hachem au Bnei Israël, tout ce qui leur est arrivé au Bnei Israël dans toute leur histoire, tout ce qui va encore nous arriver. Tout ça, c'est la suite de cette parole qu'Hachem s'adresse a adressée au peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'il a mis, comme ce qu'on avait vu avant, il se passe quelque chose à un niveau de royauté dont on n'a pas conscience tout au long de l'histoire. Dans l'histoire, on ne voit pas obligatoirement que les choses sont en train de se jouer. Alors, bien sûr, nous, on va interpréter notre histoire. Ça veut dire, on va interpréter l'histoire en termes de notre relation avec Hachem. Amalek, c'est celui qui vient et qui dit non, les choses se déroulent, elles n'ont pas de sens. C'est dû au hasard. Et nous, on dit que ce n'est pas le hasard, mais que c'est notre relation avec Hachem qui est en cause. Ce qui arrive, ce qui nous arrive, c'est les conséquences de cette relation extraordinaire qu'Hachem a initié avec nous au Sinaï. La continuité, c'est dans ce mot Anochi, qui en fait est toujours à l'œuvre. La preuve, c'est que tout à la fin, c'est de nouveau ce même mot, d'accord, qui va nous être adressé pour montrer que, voilà, c'est, vous voyez, tout ça. Tout ce qui vous est arrivé, toutes ces tragédies, toute cette souffrance, toute cette passé, c'est tout ça, ça a été guidé par Hachem. Tout ça prend du sens. Et ce sens, il a commencé avec cette parole extraordinaire qu'Hachem a dit au peuple d'Israël, je suis Hachem, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte. Jusqu'à voilà, donc on a terminé avec ce Midrash. Alors, ce que je voulais faire avec vous essentiellement ce soir, c'est la chose suivante. Je voulais un peu passer de Pourim à Pessah. Lorsque il faut remarquer, c'est que la Gemara, elle utilise un Kal Vachomer pour des raisons techniques, dans lequel un Kal Vachomer qui est discuté après, mais qui dit qu'en vérité, on aurait dû dire à Pourim, on aurait dû dire le Hallel. Pourquoi est-ce qu'on doit dire le Hallel? Parce que le Hallel, c'est l'expression poétique, louangeuse, si vous voulez, de notre reconnaissance à Hachem. Or, si on a dit le Hallel le soir du Seder, à Pessah, Korban Pessah, si vous voulez, ce Hallel-là, on l'a dit en expression de notre reconnaissance pour avoir passé de l'esclavage à la liberté. C'est le passage de Pessah. Mais à Pourim, on est passé de la mort à la vie. Et donc, si on doit exprimer cette reconnaissance par le Hallel, alors qu'on est passé d'esclavage à liberté, à plus forte raison doit-on dire le Hallel quand on a passé de la mort à la vie. On était condamné à mort par Aman et on a survécu. Hachem nous a sauvés. Or, donc, du coup, la question de savoir comment se fait-il que on ne dise pas le Hallel à Pourim, il y a plusieurs réponses. Il y a une réponse qui est que les Chachamim n'ont pas pu instaurer de dire le Hallel à Pourim, parce que la première phrase du Hallel, c'est Hallelu Avdei Hashem. C'est-à-dire, c'est une phrase dans laquelle on dit que les serviteurs d'Hachem, les esclaves d'Hachem, si on le parlait comme ça, serviteurs d'Hachem, louent Hachem. Et les Chachamim de l'époque ont dit, nous ne pouvons pas nous qualifier nous-mêmes de Avdei Hachem. Pourquoi? Akate Avdei Achashverosh, nous sommes encore sujets, mais ils utilisent le mot Avdei, encore sujet et serviteur de. Les rois considèrent que le peuple est là pour eux, les rois des Goïms. Donc, considèrent que tout le peuple est là pour les servir. Donc, Akate Avdei Achashverosh, nous sommes effectivement vivants, mais nous ne sommes pas sortis de l'esclavage, de la domination d'Achashverosh. Donc, on ne peut pas dire le Hallel. Mais comme il faut exprimer notre reconnaissance, on ne peut pas. L'expression de la reconnaissance est quelque chose de tellement fondamental. Bon, je vous rappelle que, je l'ai déjà dit, mais l'Agma dit que Adam Harishon, il était Kafui Tova. Adam Harishon, il était ingrat. Kafui Tova, c'est nier le bien qui lui a été fait. Où est-ce qu'on voit ça? C'est que quand Hachem lui a dit, lui a reproché d'avoir mangé de ce fruit dont il n'aurait jamais dû manger, enfin qu'il n'avait pas le droit de manger, il a dit, mais c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a donné. Et donc on a considéré que de dire, c'est la femme que tu m'as donnée, donc c'est la faute de la femme. Donc c'est d'une certaine manière, c'est ta faute. Tu m'aurais pas donné de femme, j'aurais pas mangé. Ça, c'est l'expression du manque de reconnaissance de Adam Harishon pour ce qu'Hachem lui a donné une épouse, en fait. Et donc on peut pas rester les bras ballants sans exprimer la reconnaissance. Alors, Chazal ont donné une autre expression. Ils ont dit qu'en vérité, notre expression de reconnaissance, si vous voulez, le Hallel dans la version Pourim, c'est le récit de la Megillah. Lire la Megillah, c'est dire le Hallel. Donc, je voulais m'arrêter un tout petit peu là-dessus. On a donc un Sipour, un récit de la sortie pour prendre les mêmes mots, de la sortie de la mort concoctée par Aman. Et évidemment, ça fait penser au récit de la sortie d'Égypte. Or, curieusement, on a une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. On n'a pas de mitzvah de raconter ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte. On a une mitzvah de lire un texte qui est complètement calibré. Quand on dit Sipour Yetziat Mitzrayim, on peut même dire, comme on dit dans la Haggadah, Kol ha'marbeh lesaper harei zeh meshubach. Plus tu en parles, plus tu brodes, plus tu développes le récit de la sortie d'Égypte, mieux ça vaut. Il n'y a rien de tel à Pourim. À Pourim, on dit les choses. Et d'ailleurs, toute la démarche de Pourim est centrée sur le fait. On raconte le fait dans sa nudité, en quelque sorte. On raconte même, on dit même pas, dans le Hala Nissim, par exemple, à la fin, on dit pas du tout, les Chachamim ont fixé Pourim. Dans Chanukah, on dit, l'année d'après, les Chachamim ont fixé Chanukah, les jours de Chanukah, le Hallel Veoda, pour dire la louange et pour exprimer la reconnaissance. Il n'y a rien de tel dans le Hala Nissim de Pourim, il y a tout, ça s'arrête. On l'a pendu, lui et ses fils. Point barre. Bon, on aurait pu dire, on a décidé de faire pourrir, etc. Rien, rien du tout. Donc, il y a le fait brut, en quelque sorte. Le récit brut de. Et puis, dire que ce récit-là est une forme de louange, ça implique qu'il faut penser. On est en train de dire la louange d'Hachem dans un texte qui ne mentionne pas du tout le nom d'Hachem. Dire la louange d'Hachem sans utiliser son nom du tout, c'est un peu paradoxal. Alors c'est vrai que on sait que quand dans la Megillah c'est marqué Hamel, le roi, c'est Hachem. Et Amel Achashverosh, c'est Achashverosh. Mais bon, c'est une explication d'après coup, quoi, si on peut parler comme ça. Alors, quelle est la différence fondamentale, si vous voulez, entre un récit qui est de l'ordre? Alors, c'est un peu paradoxal parce que le récit de quelque chose qui est relaté dans la Torah, c'est un récit oral, et le récit de quelque chose qui n'est pas écrit dans la Torah, mais qui est la Megillah, dont on a même du mal à comprendre pourquoi elle fait partie du canon biblique. Enfin, elle fait partie, mais c'est un texte complètement écrit. Alors, ce qui s'est passé à l'époque de l'oral a été mis par écrit, et ce qui s'est passé à l'époque de l'écrit, quoi, si on parle comme ça, et raconté par oral. Et donc, finalement, ultimement, on a la question, pourquoi est-ce que les Chachamim n'ont pas introduit la mitzvah de le jour de Pourim, raconter l'histoire? On raconte pas l'histoire de Pourim, on se déguise, mais on raconte pas l'histoire de Pourim. On l'a lu. Qui s'est passé, mais il n'y a pas de, y a pas cette notion de récit oral avec plus tu en parles, mieux ça vaut. Une fois qu'on a lu la Megillah, c'est voilà, on a fait ce qu'il fallait. Et après les réjouissances, etc., c'est pas du tout sous forme de paroles, c'est en mangeant. Alors bien sûr que manger, c'est une avoda, etc. Mais enfin, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Ce que vous avez envie de dire, si vous voulez, sur cette différence entre Pessah et Pourim, une différence de traitement complet des deux. Pourquoi les Chachamim n'ont pas pris modèle sur la mitzvah d'avoir les Chachamim, quand ils font quelque chose, en général, ils prennent modèle. Marqué Kol de Takun Alors, Kendoratatku. Les Takanot, les décrets que prennent les Chachamim, ils les prennent sur le modèle de ce qui existe dans le Deoraita. Alors, c'est vrai que dans l'année telle que nous la vivons, avec une année qui commence à Nissan, avec les mois Pourim, est tout à la fin de l'année, et Pessah au tout début. Mais nous, dans notre vécu, on rencontre d'abord Pourim et après Pessah. Dans le vécu, dans l'ordre des choses, si vous voulez, quand on passe en tout cas, disons, dans notre hémisphère, à nous, quand on passe du printemps à l'été, c'est l'ordre normal, on voit d'abord, au printemps, on a Pourim, mais à la fin du printemps, on a Pessah. Donc, concrètement, voilà, on sait que 4 semaines enfin, un mois après Pourim, on a appris ça. Comme si Pourim était éventuellement une préparation pour Pessah. Alors, c'est vrai qu'on pourrait dire, avant de se poser la question de passer de l'esclavage à la liberté, il faut d'abord être sûr qu'on est vivant, quoi. Il faut d'abord passer de la mort à la vie. Et on pourrait dire, si on va comme dans ce sens-là, qu'on passe de l'hiver au printemps, c'est-à-dire on va vraiment vers la vie, quoi. Dans l'hiver, les choses sont figées, sont arrêtées, elles sont écrites, si on peut parler comme ça. Et puis c'est l'ouverture, elle se fait après. Donc, on va vers une ouverture, vers quelque chose de nouveau, mais qui s'entend bien si on le prend comme quelque chose qui vient après le passage de la mort à la vie. Maintenant encore, il y a deux sortes de vie. Il y a la vie esclave, il y a la vie libre. Donc, c'est comme si on avait la mort, l'esclavage, et la liberté. La mort, la vie, mais deux formes de vie, une forme de vie esclave, où il y a la vie, mais on n'existe pas, on n'est pas libre, et puis seulement après. Et cette liberté-là, de Pessah, elle aussi, elle est seulement une partie de la liberté. Puisque pour nous, la liberté, c'est Kabbalat HaTorah. Quand est-ce qu'on est libre? On est libre à Shavuot. Et peut-être même seulement à Yom Kippour. Encore avec les deuxièmes Lukhot. Donc il y a un processus qui commence d'une certaine manière avec Purim. Et qui culmine avec Shavuot et éventuellement Yom Kippour. En d'autres termes, entre Purim et Pessah, il y a d'abord la différence entre l'écrit et l'oral. Le récit de Purim est écrit. Le récit de Pessah est oral. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Est-ce que le problème de l'écrit est particulièrement adéquat pour le passage de la mort à la vie et le problème de l'oral est particulièrement adéquat pour le passage de l'esclavage à la liberté? Je vous laisse un peu proposer quelque chose. Vous voulez le la situation de pourri, c'est une situation de galoute. On est en galoute. Et c'est ce que disent les Rahamim. On peut pas dire, on peut pas instaurer de dire le Hallel parce qu'on est encore en galoute. On est encore sujet à Achashverosh. Et Pessah, ben le, comme on dit au début du Seder, voilà, maintenant on est encore esclave et on va se libérer, quoi. Donc Pessah, c'est la continuation d'une autre manière, en fait, du galout. Le galout dans lequel on était sous les Perses et les Mèdes. Et on se retrouve devoir penser le galout sous les Égyptiens et la sortie de ce galout. Donc le galout de sous les Mèdes et les Perses, c'est un galout qui est écrit, si vous voulez. Le galout, il est écrit contre. Voilà, Hazal dit dans le premier psukim de Bereshit, prendre le passouk des quatre exils de Babel, les Mèdes, les Perses, les Grecs et Rome. On apprend ça d'un passouk, une dracha, quoi, mais donc c'est écrit. Le galout en Mitzrayim, comme tel, en Mitzrayim, il n'est pas écrit que ça devait être en Mitzrayim. Hachem a dit à Avraham Avinu, il lui a dit, tes enfants, ils seront effectivement, ils vont réduire en esclavage, ils vont devoir travailler, ils vont souffrir. Mais, alors là, on est dans la même situation, il y a une promesse en tout cas qu'on sortira de ce galout. D'accord? Comme Hachem a dit à Avraham, mais je les ferai sortir de ce galout, je jugerai ceux qui les ont fait souffrir, et ils vont sortir avec un grand butin. De la sortie du galout des Mèdes et Perses, en vérité, c'est la sortie du galout de Babel. Et celui-là aussi, il est annoncé, il va durer 70 ans. Celui de Mitzrayim, c'est pas annoncé Mitzrayim, mais celui-là, il était censé durer 400 ou 430 ans. Il va pas durer aussi longtemps, mais c'est comme ça qu'il était présenté. Mais c'est deux galouillottes complètement différents. Dans le galout des Perses, chez les Perses, on a l'impression que tout se passait bien. Pas que c'était pas vraiment le cas, mais dans le récit de Pourim, on voit pas, tant qu'il n'y a pas Aman, on voit pas que ça va pas bien pour les Juifs. Ils sont invités au festin. Qui participent socialement à la vie du royaume. Ils sont invités au festin, etc. En Égypte, le galout en Égypte, c'est pas ça du tout. C'est travailler comme jusqu'à plus de force, quoi. Travailler pour épuiser les gens, quoi. Donc le galout d'Égypte, il est beaucoup plus lourd que le galout. Donc le galout non écrit explicitement, c'est-à-dire qui se déroule dans un endroit qui n'est pas fixé, mais qui est annoncé comme un endroit de où on va. C'est pas simplement ils seront en galout. On va les faire souffrir, ça c'est annoncé. Le galout de Babel, c'est un galout, mais c'est tout. On n'est pas chez soi. Donc, dans ce sens-là, ça va pas dans le bon sens, quoi. Le galout, c'est vrai qu'il va déboucher sur un grand butin, Mais à la limite, le galop de Babel, il aurait pu déboucher aussi sur un grand butin. Ils pouvaient sortir et construire le Beth-Amigdash. Ils n'ont pas vraiment, ils sont pas sortis en masse. Ceux qui sont sortis à ce moment-là, c'est très peu de monde. Encore une fois, pour revenir à la question que vous m'avez posée avant, qu'est-ce que ça vous dit quelque chose, cette différence de récit, en quelque sorte? Dans la mesure où le clan Israël, c'est quand même un peuple du récit. On est un peuple du récit. C'est-à-dire que le récit, il a ceci aussi de différent. C'est que le récit de Pourim, c'est le récit de quelque chose qui a eu lieu. Mais l'événement important, c'est ce qui a eu lieu. Et puis ensuite, ils ont décidé qu'il fallait en faire le récit. Esther et Mordechai ont décidé qu'il fallait en faire le récit. Le récit de la sortie enfin, de ce qui s'est passé en Égypte, c'est pas du tout comme ça. Hachem dit, en fait, tout ce que je fais, c'est pour le récit. C'est pas, je fais quelque chose et donc vous allez après le raconter. Je n'ai fait les choses pour que vous puissiez le raconter. C'est-à-dire, on va fabriquer un peuple. Ce peuple-là, comment on commence à le fabriquer? En fabriquant son récit national. Bon, c'est un aspect de récit national. On raconte, voilà, on était esclaves, on est sortis. Et le récit précède les événements, quoi. Hachem ne fait les choses que pour que on puisse en faire le récit. Et fondamental, c'est le récit, c'est pas les événements. Alors là aussi, c'est ça, c'est la grande différence entre le récit de Pourim et le récit de la sortie d'Égypte. C'est que l'un est un récit au sens habituel du terme. Quand les gens racontent leur guerre, ben ils racontent, et l'important c'était la guerre, et puis ensuite il a raconté la guerre. En Égypte, c'était pas comme ça. C'est pas Hachem a fait des choses et ensuite on veut le raconter. Hachem dit, il dit à Moshe, les mains te s'appellent. Pourquoi je fais les choses? Pour que tu les racontes. Bon, ça veut dire, c'est pas du tout que, c'est comme si les choses, pas fondamental que je les fasse, mais à la limite, comme j'ai dit avant, je vous l'ai dit, on aurait pu imaginer qu'Hachem produise une hallucination collective. Qu'on ait tous l'impression qu'on a, effectivement, on était en Égypte et on a souffert, etc. Et on en fait le récit. Peu importe que ça se soit déroulé ou pas. Simplement pour que nous fassions pas un récit de quelque chose qui n'était pas vrai, alors Hachem a fait en sorte que ce soit vrai. Ça a eu lieu. Mais ce n'est pas fondamental que ça ait eu lieu, visiblement. L'important, c'est qu'on puisse en parler. Ça, c'est des éléments qu'on a sur la différence des deux récits. Alors, qu'est-ce que vous dites là-dessus? On a acheté un écran pour que vous puissiez parler. Aussi, on n'empêche pas ceux qui sont là d'avoir priorité, mais...
Le récit, il est fait pour les enfants, en fait.
Pour les
Il n'est pas
enfants.
fait pour... Ben, c'est ce qu'on dit, tu raconteras à tes enfants à la sortie d'Égypte.
Mais tu raconteras à ton enfant pas seulement quand il est enfant. Il sera toujours ton enfant, même quand le père il a 80 ans et le fils il a 60 ans, il est toujours son fils, il a toujours à le raconter.
Oui, je suis d'accord,
C'est
mais je veux
pas
dire,
un récit pour les enfants,
on est dans la
seulement.
transmission, c'est le principe de base.
Voilà, il y a la transmission. Mais la transmission, elle finit jamais.
Non, mais je dis pas que c'est. Je suis d'accord, mais je veux dire que le fondement du récit, il est fait pour transmettre.
Tout ça, c'est ça. C'est parce que la transmission, si vous voulez, c'est la justification par Hachem du choix d'Abraham Avinu. Hachem dit, pourquoi je choisis Abraham? Parce que lui, je sais qu'il va transmettre les valeurs en question à sa maison, à sa maisonnée, quoi, à ses enfants et à toute la maison. Je sais. Donc, Abraham est choisi parce qu'il est un transmetteur. Vous pouvez imaginer qu'il y a eu d'autres gens qui auraient peut-être aussi compris ce qu'Abraham a compris, mais ils ne l'ont pas transmis. Ce qui est important, c'est que Hachem dit, je choisis Abraham parce qu'il transmet. Et donc, nous sommes des transmetteurs. Et d'ailleurs, quand on regarde, il m'est dit que à la fin des temps, vous serez Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Alors, si on prend Mamlechet Kohanim, ça veut dire les Bnei Israël sont des Kohanim à la fin des temps. Qu'est-ce que c'est la fonction des Kohanim? C'est d'étudier la Torah et de l'enseigner. C'est ça qu'ils font toute l'année. Donc, ça veut dire l'excellence du clan Israël, c'est d'être des transmetteurs, alors transmetteurs à l'intérieur du clan Israël, et éventuellement plus loin, transmettre au goyim aussi. Or, la goyim, ça veut dire qu'il va transmettre les valeurs au goyim, pas pour qu'ils deviennent obligatoirement des bnei Israël, mais pour qu'ils soient des bons, des noirs, quoi. Transmettre des valeurs fondamentales. Alors, vous avez raison, effectivement, il y a un problème de transmission. La transmission, ici, elle se fait par le récit et pas par un écrit, quoi. C'est pas que on va lire un écrit à l'enfant et voilà, je te transmets. On aurait pu. Ouais. On lit à tout le monde dès que les gens sont susceptibles d'entendre. On lit à tout le monde la Megillat Esther. C'est bien une transmission de quelque chose. Mais c'est pas du tout, il n'y a pas un contact père-fils. Au contraire, la lecture de la Megillah, c'est une lecture communautaire, de façon essentielle. On peut la lire en privé, mais normalement, c'est Rehoboam HaBat-Melech, etc. C'est encore une opération communautaire, enfin, collective.
C'est ça, tandis que le récit, c'est ben c'est personnalisé pour la sortie d'Égypte. C'est chaque père va raconter ça à sa façon, en fonction de des
C'est
enfants qu'il
ça.
a, de leur sensibilité,
Transmission,
tout ça. Fin.
ils utilisent la transmission générationnelle, quoi. On utilise le ça passe d'une génération à l'autre. C'est-à-dire la punition des Égyptiens, c'est de casser justement ces transmissions. Pourquoi ils lui tuent les Bechorot? Parce qu'Israël est le Bechor, mais ça casse on casse la transmission d'une génération à l'autre en Égypte.
Parce que même dans une même famille, le Seder, il ne se passe pas toujours de la même façon d'une année sur l'autre, tandis que la Megillah, c'est toujours pareil. C'est un récit figé.
Et on le lit exactement et on dit rien de plus que ce qu'on a dit l'année dernière.
Et puis on a même des règles très strictes sur la façon de le lire, sur de l'écouter. Il n'y a pas beaucoup de place pour quelque chose qui serait adapté, quoi, qui pourrait être modulé en fonction de l'auditoire, de
Ça. Donc
un exercice presque figé, quoi.
c'est très important de voir cette différence. Du coup, c'est pourquoi cette différence? La transmission de ce qui s'est passé au temps d'Esther et de Mordechai, pourquoi elle ne fait pas l'objet d'une transmission personnel, quoi, de transmission familiale de génération en génération. Est-ce que c'est lié au fait que...
Alors,
Oui?
mais ce qui peut paraître
Vous êtes là?
paradoxal, c'est que, comme vous le disiez, la sortie d'Égypte, c'est un peu le récit national, mais en même temps, il est fait de façon très, très intime. Alors que pour Him, c'est, comme vous le disiez, c'est collectif, c'est communautaire.
Oui. Oui, le récit national, on se serait attendu qu'il soit communautaire.
Ça aurait été logique, quoi.
Pardon?
Parce que bah, on va essayer de faire ça en échange si pour le père, le fils, et le fils, le père.
Oui.
Avec, oui, c'est pas d'échange, en fait,
Tout à fait, il n'y a pas,
il n'y a pas de.
y a pas de transmission.
Il y a des discussions dans un sens, mais pas dans l'autre. Enfin, il y a des
Oui,
débats,
on lit, ouais.
il y a des discussions des anciens, mais pas dans le sens. Enfin, il n'y a pas d'échange.
N'y a pas de questionnement, quoi. Il n'y a pas d'ouverture de voilà, questionnement. Ça, on n'invite pas l'enfant à poser des questions à Pourim. Il est occupé à se déguiser, quoi.
S'il n'est pas besoin de savoir ce qu'il enfin, le reçoit aussi comme tout le monde, s'il n'est pas besoin de savoir de mieux comprendre ce qui s'est passé en fait.
Mais Rav,
Oui.
alors vous posez une question à l'auditoire et moi il me vient une autre question. Je suis désolé, j'ai pas d'autres commentaires concernant les différences qu'il peut y avoir entre le récit qui a l'air fermé, effectivement, qui est vécu comme ça par la communauté juive depuis des siècles. Et là, la Haggadah qui est plus ouverte et plus sujet à discussion, peut-être parce que aussi il y a la thématique moderne de la liberté, et peut-être qu'ici on a plus de possibilités de s'exprimer. Mais moi, je suis néanmoins, et la question arrive, je suis néanmoins assez interloqué par justement le récit même de Pourim, parce que je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi il ne donne pas sujet à plus de discussions, parce que pour moi il est souvent très énigmatique et parfois presque, je m'en excuse, mais abscons parfois. Je comprends pas vraiment ce qu'il en est. Ça paraît des fois incohérent. L'attitude des personnages, les événements, comment ils sont ensuite, comment ils se passent, ils se déroulent. On a l'impression d'être en plein dans un film qui est un peu ni queue ni tête, et fait de plus de choses qui seraient du niveau du miracle. Alors, la question, c'est pourquoi justement? Oui, effectivement, pourquoi on n'en parle pas de ce récit. Pourquoi on ne se pose pas des questions sur ce qu'on lit, sur ce qui se passe, et pourtant l'enjeu est majeur puisque c'est une solution finale qui heureusement ne va pas se réaliser.
Je sais pas pourquoi vous pensez que ça ni queue ni tête. Ce qui se passe dans ce récit, c'est que rien ne se passe comme c'était prévu, quoi. C'est-à-dire que les choses, chacun pense, ça a l'air un peu fou,
Oui.
mais je sais pas, incohérent, ça veut dire, une fois qu'on a admis la folie d'Ahasvéros, d'une certaine manière, peut-être c'est une folie rusée, peut-être, mais et le fait que Aman c'est Amalek, les choses se comprennent assez bien.
Alors, je donne des exemples. Comment, par exemple, expliquer cette double invitation de Esther? Comment expliquer l'attitude complètement théâtrale et un peu ridicule de Haman qui tombe sur le sofa où se trouve la reine? Pourquoi le Ahasvéros sort sort soudainement du deuxième festin pour aller respirer dans le parc tellement il est énervé? Enfin, voilà, c'est ça que je veux dire. Et pourquoi on dit que les dix fils de Haman sont morts et puis en définitive après Ahasvéros demande à Esther, tiens, qu'est-ce que tu souhaiterais de plus? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Elle me dit, bah, ça serait de pendre les dix fils de Haman. Mais ils sont morts, les dix fils de Haman. Toutes ces
Des
choses.
morts. Même s'ils sont morts, ils sont. La potence, c'est 25 mètres de hauteur. Donc, si on va les pendre, que tout le monde voit bien que non seulement lui, il est mort, mais aussi ses fils. Donc, ça, c'était une vraie démonstration. C'est ça qu'Esther voulait.
Ah, ils
Donc,
sont
ça,
morts,
c'est.
mais ils sont pendus morts, quoi. D'accord.
Bien sûr, on a pendu mort, mais. Ouais, on affiche leur mort, quoi. On affiche mort. Et bon, on peut, c'est pas pour rime, donc on va pas répondre en détail sur toutes les questions que vous avez posées.
Non, mais
Mais
c'est pas le sujet, mais justement, pourquoi? Semble-t-il, hein, il semblerait on n'en parle effectivement pas. Voilà, on lit la Megillah et puis.
non, là. On en parle, mais il n'y a pas de mitzvah d'en parler. On en parle comme on discute sur n'importe quel texte du Tanakh. On a un texte. Celui-là, il est un peu spécial parce que c'est un texte qui a été écrit par Mordechai et Esther. Donc, eux, ils ont voulu faire passer un certain message dans ce texte. Alors après, le paradoxe, c'est que ce texte-là, qui était quand même voilà un texte essentiel pour les gens de l'époque, quoi. Pour leur dire exactement pour leur dire ce qui s'est passé. Tout le monde n'avait pas un moyen de savoir ce qui s'est passé dans les 127 provinces. C'est un empire gigantesque, celui d'Achashverosh. Et donc, ils ont écrit les choses et puis ensuite, ils les ont fait connaître à tout le monde. Mais ils ont écrit ce qu'ils avaient envie d'écrire. C'est-à-dire, comment est-ce que eux ont décidé d'interpréter ce qui s'est passé? Et bien sûr que ça apparaît caricatural. Qu'est-ce que c'est que ce pays où on règle tous les problèmes avec un festin? Bon, ben en France aussi, on fait beaucoup de contrats qui sont signés dans des repas, etc. Alors bon, c'est pas un festin 180 jours, d'accord? Ils n'ont pas les moyens du tout. Mais 180, c'est un peu beaucoup. Après, il y a des festins plus restreints de 7 jours. C'est pas mal. Mais bon, c'est une cour. On voit pas que les gens aient besoin. On parle pas du travail des gens. On connaît pas, on voit pas la populace. Ils sont simplement, on a un Haman qui a probablement des cellules dormantes un peu partout, puisqu'il peut envoyer des lettres à tout le monde en leur disant, soyez prêts tel et tel jour, vous aurez le droit de massacrer les Juifs. Donc il renvoie ça à des gens de confiance. Donc il a dans les 127 provinces, il a des relais, il a des cellules dormantes, il a placé de ces gens, c'est son fils qui est le lecteur du roi. Bon, c'est lui le lecteur des archives. C'est lui le lecteur du roi. Donc il a déjà des Haman. Bien sûr que lui, il veut le trône et Ahasvéros sait très bien qu'il veut le trône. Et Ahasvéros, c'est un imposteur. C'est pas lui l'empereur. C'est elle, c'est Vashti. Comment il a réussi à devenir empereur, c'est une question. Il est palefrenier. Il est devenu empereur en épousant la princesse, bon, ce n'est pas non plus tellement évident. Mais bon, c'est une espèce de royaume comédie, on a l'impression. Bah, vous avez dit que c'est un film, c'est un très mauvais film, hein. Franchement dit, je suis pas du tout un connaisseur, mais je pense pas que ce soit un film. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui allait voir ce film-là. Il est vraiment assez nul. Mais bon, pour revenir à ce qui nous intéresse directement, c'est sur cette différence que, bon, avec ce que Ezra a dit là, et ce qu'elle a dit aussi sur cette notion de transmission qui est absolument fondamentale, alors qu'il n'y a pas de transmission au sens habituel du terme dans le récit de la Megillah. C'est une lettre qui est écrite, Igeret. C'est une lettre. C'est une lettre, la lettre, elle est. Une lettre, c'est pour être envoyée aux gens de l'époque, quoi. C'est pas un récit qu'on a. C'est pas vraiment un récit, en fait. C'est pas vu comme récit. C'est une lettre explicative. Pour leur dire aux gens ce qui s'est passé, à quoi ils ont échappé. Il faut bien aussi leur expliquer pourquoi tout à coup ils ont reçu des lettres en leur disant attention, il faudra tuer les goïms parce que si vous les tuez pas, c'est eux qui vont vous tuer. Bon, tout ça c'est compliqué. Pour nous, l'important dans cette affaire-là, c'est l'implication de. Il y a ce mélange entre l'antisémitisme, disons, d'un Ahasvéros et un Amalek. C'est deux choses différentes qui s'ajoutent, là, brusquement. Pour Amalek, il a l'occasion de faire son sale travail. On ne sait pas très bien pourquoi, en prenant prétexte on voit très bien, c'est un prétexte. Si c'était contenté de tuer Mordechai, on n'en aurait pas parlé, quoi. Il y a un juif n'importe qui, juif ou pas, qui obéit pas à la loi, bon, voilà, dans un pays comme le, là, on le tue. C'est pas, il n'y aurait rien eu à pas faire l'objet de grandes discussions, quoi. Des endroits où on tuait des juifs, il y en a beaucoup. Mais ce fou, il décide qu'il va tuer tout un peuple parce qu'il y a un type qui ne se présente pas devant lui. C'est un prétexte. C'est ça l'importance. On a ici un texte prétexte qui explique le prétexte que Aman a choisi dans cette affaire-là. On voit Amalek trouver un prétexte. Et comme Hachem l'a dit dans la Torah, la guerre contre Amalek, c'est une guerre d'Amalek contre Hachem, pas seulement contre le peuple juif. La Mechama d'Amalek, elle est contre Hachem. C'est pour ça qu'Hachem est intervenu, quoi, quelque part. Il intervient Mais il y a la construction dans cette affaire qui est que dans ce récit, c'est Hachem a fait quelque chose que personne n'a compris pendant toutes les années ou jusqu'au moment où le plan de Haman se met en marche. Faut n'oublier pas que tout ça se déroule sur 9 ans. On le voit pas du tout dans le récit de la Megillah. On voit pas que ça se déroule sur 9 années. Mais jusque au moment où Haman a son plan de destruction du peuple, entière. Ben, il s'est passé quelque chose et tout ce qu'on nous dit, c'est que Mordechai n'y comprend rien. Bon, tous les jours, il est là devant le palais, il écoute, il va se passer quelque chose. Ça veut dire que Ahasvéros, il a convoqué pour remplacer la reine qu'il avait tuée. Il a convoqué toutes les jeunes filles. Et parmi les jeunes filles, ben, il y a une femme mariée qui a été prise. Esther, elle est mariée. Quoi, Ahasvéros, il s'est pas aperçu que c'était pas une jeune fille, là, qu'il avait. Ben, ça a passé comme si, comme une lettre à la poste. C'est sûr que les Juifs là-bas, ils se demandent pourquoi c'est une petite juive qui a été prise là-bas comme reine, devient reine. Personne n'y comprend rien jusqu'au moment où. Et ce qui est très intéressant, c'est que, bon, on va faire du pourri, quoi, mais que Mordechai, quand il dit à Esther qu'il faut qu'elle aille intervenir, il lui dit, Mi yodea im vet kazot gatemalot. Il lui dit pas, maintenant je comprends ce qui s'est passé. Bon, parce que nous, on voit, on n'a rien compris jusqu'à maintenant, mais maintenant qu'il faut que quelqu'un intervienne, alors on comprend pourquoi toi tu es devenu reine, parce que toi tu vas pouvoir maintenant éventuellement parler au roi pour annuler le décret de Haman. Mais même Mordechai, il ne lui dit pas qu'il est certain. Il dit Mi yodea. En français, ça veut dire qui sait. Ça veut dire, il n'est pas sûr. Il le dit, c'est une hypothèse. Elle est très vraisemblable, mais c'est une hypothèse, Mi yodea. Il ne lui dit pas. Bien sûr, on peut lire Mi yodea, Mi c'est Hachem. Hachem sait que c'est pour ça. Mais ce n'est pas ça qu'il est en train de lui dire. Il lui dit Mi yodea. Qui sait si tu n'es pas redevenu reine pour cela? Alors, il n'est pas sûr. Nous, on est sûr, hein? Mais lui, il n'est pas sûr. Il n'est pas certain. Ça veut dire, ça reste une hypothèse très vraisemblable, mais c'est jamais qu'une hypothèse, on n'a pas de certitude. Hazal disent toujours que Amalek, c'est celui qui veut instiller littéralement du doute. Donc là aussi, Mordechai, il est en doute, il n'est pas sûr. Il n'est pas sûr de son affaire. Seulement, même si ça n'est qu'une hypothèse, il va demander à Esther de risquer sa peau. Parce qu'elle risque sa peau d'aller là-bas. Pour intervenir, pour peut-être obtenir l'annulation du décret de d'Aman. Alors on apprend des halakhot. On apprend une halakha de Pikuach Nefesh, de Nefesh, parce que se sacrifier pour le clan Israël. Des choses, beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Enfin, on a déjà parlé, mais moi, je n'ai jamais compris pourquoi Mandra il n'a pas divorcé. S'il divorce, il y a aucun problème, il peut la réépouser après. Si jamais elle redevenait libre, il peut la réépouser, il n'est pas Cohen. Il peut épouser une femme qu'il a après avoir divorcé. Pourquoi la mettre dans cette situation où un jour elle est avec celui-là, une fois avec celui-là? Incompréhensible. Bon, mais donc on a un récit qui est un récit de transmission avec une volonté de transmettre quelque chose de fondamental. Mais est-ce qu'il n'y a pas lieu non plus, il n'y a pas lieu de transmettre qu'Hachem il a fait apparaître des miracles. C'était des miracles qui se présentaient comme naturels. Parce que vous pouvez lire la Megillah comme le récit de deux clans qui s'affrontent. Il y en a un qui met une des femmes dans le lit du roi et il gagne. Oui, que dans n'importe quelle république bananière, on peut faire ça. N'y a pas de... Tout
Excusez-moi.
réside dans l'interprétation que Esther et Mordechai ont voulu donner de cette affaire-là.
Excusez-moi, mais comment est-on si sûr que Esther est mariée à Mordechai? Comment on peut sortir ça de la tête?
C'est écrit dans la Megillah, c'est une dracha. C'est marqué que Esther, elle était orpheline de père et de mère. Elle a été adoptée par son oncle. Mordechai, c'est son oncle. Qui ensuite l'a épousée, c'est-à-dire, c'est marqué, il l'a prise le bat comme fille. Bat, ça s'écrit bet, tav. Et la dracha de Chachamim, c'est de lire à la place de bat, bait. C'est un yud entre le bête. Et donc, elle est son bait. Bait, c'est une expression pour dire là, c'est son épouse.
Mais pourquoi les Rachamim ils disent comme ça? À cause du
Parce
taf?
qu'il pensait que c'était comme ça. Mais on a voulu dire qu'il l'a d'abord prise comme sa fille, parce elle est orpheline de naissance quasiment. Donc, il l'a d'abord élevée comme sa fille. Mais c'est sa nièce et on peut épouser sa nièce. Donc, et ensuite, il l'a épousée. C'était la prolongation du fait qu'il l'a prise comme sa fille. Et ensuite, il l'a épousée.
Et Arash-Véroch, il sait que cette femme est allée, elle est mariée.
Non, il n'en sait rien. Arash-Veroch ne sait rien, il veut rien savoir d'ailleurs. Il ne veut rien savoir parce que sinon ça n'aurait pas marché. Parce qu'il est fou au point de penser que comme il se prend pour Dieu, alors il veut pas savoir d'où viennent les gens ni qui ils sont. Puisqu'il veut que tout ce qui existe autour de lui, c'est grâce à lui. Quand il vient chez vous allez le voir, il vous touche avec son sceptre. Il vous donne la vie. C'est réminiscent du tableau de Michel-Ange, façon du monde. C'est pas réminiscent, hein. C'était avant, mais il vous donne la vie. Si il vous le donne pas la vie, vous êtes mort. Il veut, sinon jamais, jamais un roi pourrait épouser quelqu'un sans savoir qui elle est. Mais il lui demande rien parce que rien n'a d'importance. Il veut juste m'en montrer que rien n'a d'importance que ce que lui, il décide. Elle est sa créature. C'est ma reine. Tout ce qu'elle est, elle n'existe pas avant. Peut-être c'est ça qu'il est en train de dire, que on a dit des vierges, mais bon, à partir du moment où elle est chez moi, c'est toute sa vie antérieure n'a aucune importance.
Mais elle a pas d'importance, il s'intéresse pas à ce qu'elle est, si elle est mariée, pas mariée, mais néanmoins dans les vers la fin du récit, il veut tout lui donner, ce gars-là. Il dit, ben,
Non,
tu
mais
me donnes la
elle lui a
moitié.
dit, elle lui dit seulement qu'il est son oncle. Elle lui a pas dit, elle n'a pas dit à Hasveros
Non,
qu'il
non,
est son mari.
je parle de Arash-Véroch. Arash-Véroch, il est curieux comme bonhomme parce que, d'accord, il s'intéresse. ça l'intéresse pas de savoir, etc., d'où elle vient, quel peuple et tout. Mais néanmoins, il lui dit, si tu veux, moi, je te donne. En plus, elle vient, elle est pas très très fraîche, je pense. Elle a 3 jours de elle a fait
Ah
trois
ouais,
jours
bien sûr.
de tsoum. Et il lui dit, mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux la moitié de mon royaume? Et 3 fois, il lui dit, tu veux la moitié? Qu'est-ce que tu veux alors? Tu veux quoi? Tu veux la moitié? C'est bizarre quand même. Il est complètement gaga avec Esther. A priori,
Sans doute,
tout lui donner
ouais.
là.
Ouais. C'est-à-dire, s'il ne donne que la moitié, c'est lui, il va garder la meilleure moitié. Il va garder la bonne moitié. Voilà, on va s'arrêter là. Je vous invite à réfléchir pour la prochaine fois
Merci.
sur ce
Merci,
lien.
Rav. Merci, Rav.
Bonsoir.
Bonsoir, merci.
Bonsoir.